Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Nadège Petrel. Elle est mère de deux enfants, infirmière puéricultrice. Elle a choisi de se former à différentes techniques de bien-être pour accompagner les enfants et leurs parents dans leur quotidien. Que ce soit le portage bébé, les massages bébés, la pédagogie Montessori, le yoga pour enfants, l'allaitement maternel, ou la communication gestuelle ou l'accompagnement des émotions, elle a à cœur de faire découvrir une nouvelle éducation aux parents. C'est sur le sujet des émotions et de l'accompagnement des émotions de l'enfant que nous allons nous exprimer aujourd'hui, en échangeant sur ce que c'est, ce que cela implique, les techniques éventuelles, les astuces, les anecdotes aussi. La première question que j'ai envie de poser à Nadège, en toute simplicité, c'est « Nadège, que peux-tu nous dire des émotions de l'enfant ?» Je vous souhaite une très bonne écoute.
Déjà que ça fonctionne en partie, en tout cas, différemment des émotions de l'adulte, du fait justement de l'immaturité cérébrale des enfants. Et du fait de cette immaturité, il y a des choses que les enfants ne vont pas pouvoir contrôler, ou en tout cas, ils ne vont pas pouvoir agir de la même façon qu'un adulte face à une émotion qu'ils vont recevoir, quelle que soit l'émotion qu'ils vont ressentir. Donc déjà, ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que par ricochet, du coup, la réaction de l'adulte qui va être avec l'enfant va devoir s'adapter au fait que ce soit un enfant qu'on a en face de nous et non notre conjoint, notre père, notre mère, enfin bref, un autre adulte. Donc le positionnement de l'adulte qui va être en face va être différent.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Tu parles d'immaturité cérébrale. Qu'est-ce qui se passe chez un enfant quand il a une émotion? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas, on utilise souvent le terme « gérer ses émotions » pour enfant comme adulte. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas?
Alors déjà, moi je vais parler plus d'accompagnement des émotions. En gros, avant 5 ans, on va dire, alors moi j'aime pas trop donner d'âge, mais on va dire avant 5 ans, le cerveau archaïque et émotionnel domine chez un enfant, d'accord? Donc, tous les comportements qui vont décliner suite à une émotion quelconque, ces comportements, en fait, ils vont être dus à cette immaturité. Le cortex préfrontal qui, lui, va réguler les émotions, qui va permettre de raisonner, de réfléchir, de prendre des décisions, eh bien, ce cortex préfrontal, chez l'enfant, il est encore immature. Alors que chez un adulte, il est mature. Donc effectivement, quand on va recevoir l'émotion, on va pouvoir à un moment donné se raisonner. L'enfant, lui, eh bien, il va avoir justement besoin d'aide, il va avoir justement besoin d'accompagnement de la part de l'adulte qui va être avec lui pour faire ce travail-là qui n'est pas encore possible dans son cerveau. Donc en fait, il va vivre ces émotions de façon bien plus intense, si on peut comparer par rapport aux adultes.
Souvent, on parle d'un enfant qui est submergé, c'est ça, vraiment, par l'émotion qui est... Ça déborde. Je me rappelle d'une conférence gesticulée que j'ai vue sur les violences éducatives ordinaires, de Camille Pasquier, hein, pour la citer, où Camille Pasquier, pour le coup, quand elle explique l'émotion de l'enfant, elle a un petit bol dans lequel elle met un liquide, je crois que c'est un liquide rouge pour la colère, et elle montre comme ça que ça se remplit, puis elle souffle, tu vois, ça fait des bulles. Je trouve ça super intéressant pour montrer que voilà, ça bouillonne, ça déborde, et donc ça, c'est l'enfant.
En fait, souvent même, on peut parler, enfin, il y en a qui emploient les termes de tempête émotionnelle. Voilà. Mm-hmm. Donc effectivement, ça rejoint un peu effectivement ces bulles-là qui débordent, dans le sens où ça devient presque incontrôlable, en fait, où l'enfant comprend plus forcément trop ce qu'il est en train de vivre. Et nous, l'adulte à côté va essayer d'aider l'enfant à reconnaître cette émotion, de se reconnecter à son corps, de se reconnecter aux sensations, à tout ce qu'il est en train de ressentir vraiment. Et du coup, ben, de pouvoir après adapter et proposer des choses à l'enfant. Après, il y en a qui parlent aussi, tu sais, du cerveau dans la main.
Ouais,
voilà.
Quand je le connais.
On pousse, voilà. Et on plie le pouce et on garde les quatre autres doigts en l'air, bah ça c'est le cerveau de l'enfant. Donc ou en bas ça va être justement tout le cerveau archaïque émotionnel. Et quand nous on est adultes, eh bien on replie tous les quatre doigts au-dessus du pouce et c'est la partie qui permet voilà de raisonner. Et chez l'enfant, ben c'est en l'air. Et donc nous adultes, on va essayer ben d'apaiser tout ça.
Le cerveau dans la main, c'est très général, mais par contre, ça a le mérite d'être extrêmement clair. Moi, j'ai adoré ça. Je l'ai vu là pour la première fois dans le documentaire de Stéphanie Briand, Le cerveau des enfants. Mmh. C'est expliqué par un neurobiologiste américain. Et j'ai trouvé ça. Pour moi, en tout cas, je suis à ce moment-là qui n'y connaissait rien. J'ai fait « Ah !» Ah, mais c'est limpide. Donc c'est super intéressant. Et donc, comment on fait pour le coup? Une fois qu'on se dit, ok, il faut, tu parlais d'aider à reconnaître les émotions. Moi, de ce que je comprends par rapport à ce que tu as déjà dit, c'est qu'il y a quand même pas plusieurs étapes, quoi. C'est pas tout à coup, il se passe quelque chose, on peut dire, tiens, tu te sens comme ça, on va faire ça, quoi.
Alors, déjà, ça va être ben soi, adulte, de connaître les émotions et les différentes sensations, on va dire, qui sont associées. Pour pouvoir justement aider et accompagner notre enfant, peut-être en lui disant est-ce que là tu ressens peut-être des palpitations, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a ta mâchoire qui se crispe, est-ce que... Donc on va être aussi donc nous on sait hein, ce qu'on ressent dans notre corps, par exemple quand on est triste, on sait ce qu'on ressent dans notre corps quand on est joyeux, quand on est en colère, quand on a peur. Du coup, ça va être d'essayer de dire à l'enfant, est-ce que c'est ça que toi, tu peut-être ressens comme ça? Lui, il va se connecter aussi un petit peu à son corps et dire, c'est vrai, par exemple, j'ai les mains moites, ou je sens que j'ai les larmes qui montent ou qui coulent. Mais c'est vrai qu'on va être un petit peu plus dans la proposition plutôt que de dire, tu es en colère, t'as les poings crispés, ou voilà, on va plus amener l'enfant à comprendre ce qui se passe, à dire, tiens, je vois que là, tu as les poings fermés ou des choses comme ça, mais d'être vraiment dans la description, nous, de ce qu'on peut voir, parce qu'au final c'est l'enfant qui ressent son émotion, d'accord? Donc même s'il y aura des points communs entre lui et nous, il peut y avoir quand même deux, trois peut-être sensations qui vont être un petit peu différentes ou plus ou moins intenses pour moi, mais qui le seront moins peut-être pour ma fille, et inversement. Donc ça va être d'essayer d'être un petit peu dans la description de nous ce qu'on voit, donc d'essayer d'arriver à prendre un petit peu de recul aussi, parce que quand c'est son propre enfant, ben on est touché, hein. On est touché, c'est de l'ordre de l'intime, on est touché en plein cœur, ça peut éveiller aussi des choses à l'intérieur de nous, de voir notre enfant triste par exemple, moi je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, je me suis pris un bon coup à l'intérieur de voir toute cette tristesse là, parce qu'on n'a pas forcément envie de voir notre enfant triste. Et pourtant, la tristesse, elle est hyper importante. Enfin, toutes les émotions, d'ailleurs, sont très importantes. Donc, une fois qu'on a compris ça aussi, on va être dans la description de ce qu'on voit, d'essayer de faire prendre conscience à l'enfant que peut-être là, il se passe ça et ça, et lui dire, et donc, du coup, est-ce que tu es en colère, ou est-ce que peut-être tu es triste, ou voilà. Et être vraiment... dans l'accueil, donc ça va être d'essayer de ne pas forcément chercher à stopper l'émotion. Parce que souvent, sans forcément s'en rendre compte, on peut avoir des actes ou autres qui vont au final stopper l'émotion, donc de l'enfant. Si on ne lui permet pas de la vivre jusqu'au bout, on ne peut pas être dans ce processus de une fois que j'ai déchargé, après, je me sens mieux, un peu réparatrice, parce qu'au final, toutes les émotions, elles sont là pour quelque chose qui est important pour soi. Donc, si on permet à l'enfant d'aller vraiment jusqu'au bout et de l'accompagner, et pas de la stopper, et pas de dire « bon, maintenant, ça suffit, stop », mais d'être dans « ok, ben là, je vois que peut-être tu as besoin de te défouler, on peut aller taper des pieds ensemble hein. ». Voilà, pour sortir ce qu'il y a à sortir, parce qu'une émotion, ça vit vraiment par le corps. et ben du coup, on va lui permettre d'aller vraiment à fond dans le processus du ressenti de cette émotion. Sachant qu'une émotion, ça dure pas, enfin, ça dure pas une heure non plus. Enfin, c'est, voilà, c'est assez bref.
Ouais, le principe de l'émotion, de ce que j'en ai compris, c'est que c'est éphémère.
Oui.
Sinon, après, ça devient un sentiment.
Ouais, en fait, après, c'est que c'est entretenu par des pensées, sinon.
Ouais.
Et une émotion, vraiment, effectivement, t'as le stress. Ensuite, t'as des choses qui vont apparaître en fonction de l'émotion que tu ressens. Et ensuite, ça s'apaise et ça s'arrête. Voilà. Mais effectivement, sinon, c'est que c'est entretenu par les pensées. Mais c'est plus l'émotion. Puisque l'émotion, elle fait suite au stress. Donc, c'est voilà, éphémère.
Au stress, toutes les émotions font suite à un stress.
Oui.
Ah ouais?
Il y a d'abord le stress.
Ah, attends, là ça m'intéresse, là. C'est-à-dire que même quand je suis joyeux,
ouais,
c'est suite à un stress.
Ouais, c'est un bon stress. Ça s'appelle le stress. E-U-S-T-R-E-2-S. Mais c'est suite
d'accord
à un stress.
Ouais. Ah, c'est rigolo, ça. Tu vois, ça, je savais pas.
Tout ça, je l'ai appris au stage La grammaire des émotions d'Isabelle Filiosa.
D'accord.
Qui est vraiment un stage très riche.
Tu parlais de il ne faut pas stopper l'émotion. Donc tu disais maintenant ça suffit. Moi tu vois il y a un petit geste que je constate dans mon entourage où souvent quand ma fille se met à pleurer ou à pas, c'est pas vraiment un cri mais tu vois à émettre une espèce de plainte tu vois dans le vocabulaire courant pour dire à chouiner. Souvent il y a des gens qui disent non mais là ça va. Et pour le coup, en discutant avec ces personnes, je leur ai expliqué que de mon point de vue, c'était « Attends, mais là, pour le coup, tu dis ça va, mais elle t'exprime que ça va pas. » Donc, essayons de creuser ce qui se passe. Et ces personnes m'expliquaient que non, mais dire ça va à un enfant parce que ça va, on est dans de l'accompagnement d'émotions. De mon point de vue, c'était plutôt « Non, t'es en train de lui dire que ça va alors que lui te dit que ça va pas. » Tu vois, on est plutôt en train de renier l'émotion.
En fait, là, du coup, on va partir sur l'écoute de l'émotion. C'est-à-dire que un enfant qui, est triste, par exemple, parce que le ça va, moi, ça me fait penser à ce qu'on va dire à quelqu'un qui est triste et dire mais non, allez, c'est bon, ça va passer.
Mmh, exactement, ouais.
Au final, est-ce que vraiment, quand on dit le ça va, est-ce qu'on est dans l'écoute? Voilà. Parce que quand on est dans l'écoute de l'autre, et donc, les exercices d'écoute, c'est moins évident que ça en a l'air, c'est pas aussi simple en tout cas que ça en a l'air. C'est que vraiment, on va être dans ok, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu veux m'en dire plus? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Voilà, là on est dans l'écoute et dans l'accueil de ce que l'autre a à nous dire. Lui dire ça va, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu comme si on savait mieux que lui, là tout de suite, ce qu'il ressent et de dire. Mais non, regarde, ça va. Oui, parce que peut-être que moi, là, en face de lui, moi, ça va ou que j'ai envie que ça aille bien pour passer à autre chose. Mais c'est vrai que quand on fait l'expérience de vivre les émotions vraiment pleinement jusqu'au bout, le vrai ça va, eh ben, il va mieux, on va mieux, une fois qu'on a pu effectivement aller jusqu'au bout du bout de l'émotion qu'on est en train de ressentir. Et il y a une réelle différence, même à explorer aussi entre adultes, mais il y a une réelle différence. Et les enfants, ils sont, il faut pas l'oublier, hein, ils sont vraiment pleinement dans l'instant présent. Ils sont pas comme nous forcément à se projeter à 10 000. Ils sont vraiment là, ici et maintenant. Donc vraiment d'être dans l'écoute et dans l'accompagnement là tout de suite, sachant qu'en plus donc l'émotion elle va finir par passer assez rapidement, c'est aussi accompagner cet enfant dans sa vision en fait du monde et de soi. Et donc oui, on est ici maintenant, donc là tout de suite, toi tu te sens comme ça ou tu m'as dit qu'il y avait ça, on peut essayer de reformuler aussi un petit peu. Et au final, l'enfant, il va se sentir entendu, il va avoir quelqu'un de calme en face de lui. Et puis, il y a les fameux neurones miroirs qui font que si l'enfant, il a quelqu'un de calme aussi en face de lui, ça apaise, ça rassure parce que c'est une présence qui est là, qui est pleinement là pour moi, donc pour l'enfant. Et donc, je me sens entendue, je me sens écoutée, je me sens rassurée et ça redescend. Et là, on est allé jusqu'au bout. Et c'est un bon calme après qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors moi, j'aime bien parler d'émotions agréables ou désagréable. Parce qu'en plus, ça ramène vraiment, je trouve, à la notion ben, justement de ce qu'on ressent dans le corps, de toutes les sensations qui vont être justement bien spécifiques à chaque émotion. Et on voit si ce qu'on ressent, eh bien, est-ce que c'est quelque chose qui est agréable pour moi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est inconfortable ? Est-ce que c'est désagréable ? Et du coup, ça nous amène vraiment toujours à nous centrer sur ce qu'on ressent. Et c'est vrai que c'est là que je vais faire aussi le parallèle avec le yoga et les relaxations ou méditation, parce que c'est quand même mon domaine. Mais c'est vrai qu'avec des techniques comme le yoga, par exemple, on est vraiment dans le « ok ». Je me pose, je respire, je vois ce qui se passe dans mon corps. Je vois effectivement si quand je fais une position, est-ce que là c'est agréable ? Est-ce que je sens qu'au contraire ça tire et que peut-être il faut que j'aille un petit peu moins loin dans mes mouvements ? Est-ce que quand je respire de cette façon-là, c'est simple et c'est fluide pour moi ? Ou au contraire, est-ce que je sens que là peut-être il y a des petits blocages, c'est compliqué ? Et où on est vraiment au final dans l'écoute de soi. Et je trouve que d'apprendre ça aux enfants et donc d'apprendre à vivre avec leurs émotions, à les connaître, à les reconnaître, et au final, on leur apprend à prendre soin d'eux dès l'enfance. Alors, sachant que quand on apprend tout ça adulte, ça demande un réel travail sur soi et c'est pas évident, voilà, quand on découvre tout ça à 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Alors que quand on l'apprend enfant, comme en plus toutes ces techniques-là, on va les apprendre avec le jeu, de façon ludique, au final, c'est fluide et ce sont des choses que les enfants pourront réutiliser après. Et c'est vrai que c'est souvent ce que je dis aux parents, c'est que ce soit le yoga, des exercices de relaxation ou de respiration ou autre, faites-le quand tout va bien. Quand tout va bien, on se dit, tiens, au lieu de mettre un dessin animé ou de faire un Monopoly, tiens, regarde, j'ai un jeu de dés, on tire le dé et on s'amuse à faire les postures qui sont dessinées sur le dé et on va les faire ensemble, tu vas voir, c'est super rigolo. Ou alors, on va s'entraîner on va faire des bulles, justement, là, pour reprendre les bulles que tu disais tout à l'heure. On fait des bulles avec une paille dans un saladier et du coup, on fait des choses qui, au final, sont ludiques, qui sont pour l'enfant des jeux, mais ce sont des choses qu'en fait, ils vont pouvoir réutiliser dans le quotidien, suivant les situations qu'ils vont vivre, que ce soit à l'école, à la maison, en vacances, qu'ils soient seuls ou chez papy-mamie ou avec leurs propres parents. Et ensuite, eh bien justement, quand on va avoir notre enfant qui va vivre une émotion de façon assez intense, on va pouvoir peut-être lui dire, tiens, tu te souviens, l'autre jour, on a fait le lion. Est-ce que tu veux qu'on refasse le lion ensemble ? Tu te souviens comme ça nous avait fait du bien ? On avait pu sortir plein de choses ensemble. Peut-être que là, ça pourrait t'aider à finir de sortir ce qui se passe. Et puis hop, on se met à genoux à côté de notre enfant et au final, on commence à faire le lion. Et soit il le fait. Soit il le fait pas, il nous regarde, mais au final, il voit qu'il peut le réutiliser dans cette situation-là. Et que ce sont des choses qui peuvent l'aider justement quand les émotions sont peut-être un peu moins agréables à l'intérieur de nous, parce qu'on sait que derrière, après le lion, des fois, on a des grands fous rires et on se sent vachement bien. Et voilà.
Moi, je trouve ça génial, en effet, les exercices de conscience du souffle, les exercices. En fait, on se rend pas compte que ces exercices sont des jeux. Donc moi, j'aime beaucoup ta façon d'amener le truc. Il y a faire des bulles, il y a cette espèce de petite pipe là avec la petite balle toute légère qu'on essaie de faire rester en l'air, qui permet vraiment d'avoir une conscience du souffle qui est génial. Il y a un truc tout bête aussi, c'est le fait de, tu sais, avec la buée, le fait de faire la buée sur les vitres et tout. De montrer l'existence du souffle et tout, c'est super intéressant parce qu'en effet, la respiration, c'est...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est la base. Je rappelle que quand, et pourtant tu vois, je maîtrise pas du tout le sujet, mais quand pour la première fois on m'avait réappris à respirer, ça avait été une découverte formidable. Et en effet, au moment des émotions, ça aide terriblement. Et le fait de nous respirer adultes, quand on ressent nos émotions et aussi quand on répond, tu parlais tout à l'heure de ce que ça peut provoquer en nous l'émotion de notre enfant. Le fait de nous savoir respirer, ça permet aussi de vachement se calmer. Et en plus, ce sont des processus qui sont tout à fait scientifiques, hein,
oui.
Puisque ça permet tout simplement de réoxygéner le cerveau. Moi, on m'avait donné un conseil quand je suis en débordement émotionnel, c'est 1, tu respires, et 2, tu bois de l'eau.
Oui. Alors ça, bah justement, puisque tu parlais de ce qui pouvait aider l'adulte justement à se, on va dire, garder son calme, si on peut dire ça, pour dire d'accueillir et d'être dans l'écoute de l'émotion de son enfant. Effectivement, ce qui marche, c'est de boire, par exemple, 3 gorgées d'eau, mais vraiment les boire lentement. C'est-à-dire, je prends l'eau, j'ai l'eau dans ma bouche, je la sens sur ma langue, peut-être à l'intérieur de mes joues, je déglutis lentement. Je bois une deuxième gorgée, et ainsi de suite. Donc, des fois, on peut se dire, mais c'est complètement barré d'aller boire 2 ou 3 gorgées d'eau. Mais je sais pas, tu vois, je me dis, si t'es en train de cuisiner, t'as ton enfant qui est dans sa chambre, ou tes enfants entre frères et sœurs, et il y a une dispute, un truc, il te sent que ça monte, parce que peut-être que toi aussi, t'as une journée difficile suite au travail ou autre. De te dire, bon, avant de rentrer dans la chambre de mon enfant pour voir vraiment ce qui se passe, je prends ce temps-là de boire 3 gorgées, ça prend même pas une minute, hein. Enfin, je veux dire, c'est hyper rapide. Ce qui marche aussi, effectivement, donc, c'est de respirer, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être de regarder du verre, de regarder par la fenêtre si on a un arbre, de la nature, en fait, ça fait du bien, ça apaise. Ça peut être de mettre une petite musique. Bon, alors ça, je sais pas si des fois dans la précipitation, suivant ce qui se passe, c'est vraiment pas trop le temps de. Attendez les enfants, je vais mettre la musique. Mais...
Non, c'est ça.
Suivant l'émotion, voilà, suivant la situation, je pense qu'il y a des fois où on peut avoir le temps d'aller le faire et de le faire comme ça, en tout cas. Et puis ensuite, ben voilà, quand on arrive face à notre enfant, on peut commencer par se mettre à sa hauteur, par le regarder dans les yeux, d'essayer. Alors moi, j'aime bien. Prendre l'image de cette bulle, de se dire on se met dans une bulle, mon enfant et moi. Alors ça, moi, j'utilise vraiment beaucoup. Alors quand il y a du monde autour de moi, tu vois, par exemple, si on est dans un supermarché, une galerie marchande ou je ne sais quoi, enfin là où tu as du coup tous les regards des autres qui viennent et qui pèsent en fait au-dessus de toi.
Et qui te jugent.
Ou t'as l'impression qu'on te juge, je sais pas. Mais en tout cas, de te dire, je suis dans ma bulle et seul mon enfant et moi comptent justement ici et maintenant, là, tout de suite. Je vois la détresse de mon enfant. Je n'oublie pas qu'effectivement, son cerveau n'est pas assez mature pour dire de pouvoir raisonner si moi, je ne l'accompagne pas à ce moment-là. Donc les autres, on les occulte, on se met dans notre bulle et on se met à la hauteur, on regarde notre enfant et on essaye de comprendre voilà, ce qui se passe et on reprend donc ce processus d'écoute. Après, en pleine décharge, parfois, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, à part effectivement écouter et être présent, lui dire qu'on est là et que s'il a besoin, nos bras... Notre cœur est ouvert et qui peut venir se blottir contre nous parce que ben, des fois, un câlin, ça peut faire du bien. Mais il y a des enfants qui, parfois, n'ont pas envie de ce contact physique. Mais voilà, je suis ici, je suis à côté de toi. Et si tu as besoin, tu sais que voilà, je suis là pour toi. Parce que des fois, il n'y a pas forcément trop de choses à faire. Enfin, ça dépend tellement des situations, des enfants, de l'émotion, de l'âge de l'enfant... de nous aussi, de notre capacité à accueillir en fonction de ce qui se passe et de ce que ça nous renvoie aussi.
Ben on est d'accord qu'il n'y a pas de formule magique. Hein. Ce que ça nous renvoie, c'est important. On va toucher, enfin on touche directement au sujet de l'enfant intérieur, mais qui est un sujet trop complexe pour en faire une parenthèse dans un podcast. Il faudrait plusieurs épisodes, je pense. Mais cela dit, il y a quand même... Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des petites techniques comme ça. Donc, verre d'eau, respiration, musique, regarder du verre, se mettre dans une bulle, faire de l'écoute. Tout ça, c'est des tips, quoi. Bien sûr, ça se goupille selon nos enfants, l'âge, l'émotion qui est vécue. Parce que tu vois, c'est vrai que moi, je t'avoue que j'étais en train d'imaginer, en t'écoutant parler, si je vois ma fille qui est sur une émotion de colère ou de tristesse, je vais pas tout de suite penser déjà à pas forcément à boire un verre d'eau, mais mais à aller mettre de la musique. Par contre, tu vois, si je la vois vivre de la joie hyper intense, la musique, tu vois, c'est peut-être quelque chose qui va plus moi me parler en me disant tiens, parce que ça provoque de la joie en moi, tu vois, généralement la musique. Je suis pas, moi, tu vois, par exemple, personnellement, je suis pas un grand ça peut m'arriver, mais je suis pas un grand amateur de musique qui me mette dans des états émotionnels de tristesse, avec des sensations de tristesse, bien que ça peut être très sain, hein, j'ai pas de débat là-dessus, mais voilà, ça résonne aussi avec soi. Et tout ça, ça m'amène à mon autre question, parce qu'on est en train de parler de ce qu'on peut faire, de ce qu'il faut faire, et tu sais, dans mon approche de la parentalité, il y a quelque chose que je souhaite absolument éviter, c'est les injonctions. Faut pas se mentir, il y a des fois où l'émotion de notre enfant arrive et où nous, on est juste pas du tout prêt et disponible pour l'accueillir comme il se devrait, entre guillemets. Alors, comment ça peut se passer à ce moment-là?
Alors,
c'est chaud les questions, ouais. Ici.
Non, mais alors, c'est qu'en fait, parmi tout ce que tu viens de dire, il y avait plein de choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir.
Mais rebondis.
Ouais, mais j'essaye d'ordonner et de ne rien oublier. Alors, déjà, effectivement, il n'y a pas de « il faut faire comme ça ». C'est-à-dire qu'il y a, comme on l'a énuméré, plein de choses possibles. Donc, par exemple, toi, tu dis que peut-être la musique, ça pourrait plus t'aider si ta fille avait une émotion de joie. Eh bien, partons pour la musique. Peut-être que moi, ce serait plus pour une émotion de joie intense de la respiration. C'est n'importe quoi. En fait, il faut juste se dire qu'on a à disposition des outils bien-être ou appelons-les comme on veut, enfin une petite caisse à outils magique qu'on peut utiliser avec notre enfant, mais qu'en fait rien n'est figé, ne va être similaire d'une personne à une autre, d'une famille à une autre, d'un enfant à un autre. Et même des fois d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire que là, par exemple, au jour d'aujourd'hui, tu dis que pour la joie de ta fille, tu te sentirais plus de lui mettre de la musique. Et bien, peut-être que dans un mois, ce sera autre chose. Et donc ça, pour moi, je trouve que dans la parentalité, en fait, c'est important de se dire que rien n'est figé. C'est-à-dire que même moi, mon regard sur la parentalité, il évolue. Il est complètement différent d'il y a 3 mois. Par exemple, aussi, pour endormir ma fille à 6 mois, ben, ça, il y avait tel truc qui marchait. À 7 mois, c'était autre chose. À 8 mois, c'était complètement différent, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de truc de « il faut faire comme ça ». Moi, j'aime bien me dire que je connais des choses. J'ai à ma disposition parfois certains outils. Parfois, j'en ai plus. J'ai l'impression d'avoir tout essayé, ça marche plus. Eh bien, peut-être qu'en allant discuter avec des amis ou d'autres parents ou des personnes en qui j'ai confiance, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mon entourage proche, voilà. Eh bien, je vais aller questionner. Tiens, et toi, comment est-ce que tu fais? Et puis, je vais me dire, ce que lui ou ce qu'elle m'apporte, ben ça me dit pas, tu vois, lui il a testé, moi ça me parle pas, je le testerai pas, mais peut-être que la deuxième idée qu'il a eue, ça j'ai envie d'aller le tester. Et de pas se, enfin j'ai envie de dire de s'ouvrir un petit peu à tout, et de pas se fermer en disant ouais mais elle a dit qu'il fallait respirer, et puis moi ça marche pas, donc en fait je suis pas capable d'accompagner les émotions de mon enfant, non. En fait on a des choses qui sont à disposition, et on va les tester. Et puis, peut-être que ça a marché 2 semaines et qu'après, ça ne marchera plus et qu'il faudra tester autre chose parce que tout bouge, tout est mouvement, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de notre développement et au niveau du développement de notre enfant. Et c'est aussi ça, parfois, qui est un petit peu difficile ou qui fait qu'on se sent un petit peu peut-être désemparé, c'est qu'on se dit, mais mince, voilà, là, j'ai l'impression d'avoir essayé un petit peu tout tester et ça ne marche pas. Et donc, pour en revenir à ta question où tu disais qu'on n'était peut-être pas forcément certains jours aptes, donc si j'ai bien compris, c'est ça, à accueillir certaines émotions.
Ouais, exactement, ouais.
Voilà, de nos enfants, donc peut-être qu'on est... souvent, il y a des choses, hein, c'est l'accumulation aussi de certaines choses, parfois, qu'on a vécues, soit dans les jours à venir, soit dans la journée, qui font que on n'est plus en capacité d'accueillir. J'ai envie de dire que c'est OK aussi, dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On n'est pas surhumain, en fait. Et que c'est aussi important de montrer à nos enfants que là, on n'y arrive plus. Ou que là, on n'est pas en capacité. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le fait de dialoguer et le fait d'être honnête avec nos enfants. Alors, je sais que nous, on ne leur ment pas, on ne leur ment jamais, ce qui parfois peut choquer certains. Mais juste d'expliquer avec une phrase toute simple, courte, sans forcément y mettre 50 000 mots, dire « Écoute, là, moi, c'est pas possible pour moi, c'est trop, j'ai passé une journée très forte. Laisse-moi 5 minutes, et peut-être on peut aller s'isoler dans notre chambre, on peut, se brancher les écouteurs pendant 2 minutes, et écouter justement une musique qui va nous rebooster, ou je sais pas, enfin faire un truc qui va nous faire du bien. » D'être capable aussi de verbaliser à son enfant que là, on n'y arrive plus, quoi. Que ça va revenir, hein. C'est que là aussi, c'est temporaire. Que ça n'appartient pas à l'enfant. Là, ce que je suis en train de dire, c'est pas toi, c'est pas ta faute. C'est juste que là, moi, j'ai eu trop de choses aujourd'hui. Et j'ai besoin de prendre soin de moi pendant 5 minutes avant de pouvoir revenir vers toi. Parce que, on est des êtres humains et c'est OK aussi de pas y arriver. Alors, quand on a la chance d'être à deux à la maison, de pouvoir passer le relais, c'est cool. Maintenant, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde et que parfois, on est seul aussi avec nos enfants. Et je pense que c'est important qu'ils puissent entendre que parfois, on n'y arrive plus. Parce que eux, ça leur montre aussi que peut-être parfois ils ont le droit aussi de pas y arriver, tu vois, et de se dire que personne n'est parfait et c'est normal, c'est normal.
Moi, je trouve que c'est un cercle très intéressant parce que ça permet de montrer à l'enfant que parfois ils n'y arrivent pas, et ça permet aussi de rappeler à l'adulte que parfois l'enfant n'y arrivera pas. En même temps, quand on essaye d'accueillir l'émotion de notre enfant du mieux qu'on peut et qu'on est disposé, hein, tu vois, qu'on est disponible, mais juste que c'est ça. On a l'impression du moins que ça marche pas, parce que dans tous les cas, ça agit. Mmh. Ça peut aussi permettre de dire, OK, là, c'est OK. C'est OK. Ouais. Je trouve, moi, j'aime beaucoup ce que tu disais au début de ton explication sur la parentalité. Moi, perso, la parentalité, ça m'aide quotidiennement à augmenter ma résilience et mon adaptabilité à tout. mais même sur des sujets où tu t'y attends pas, vraiment, moi, ça me modifie en profondeur et quotidiennement, ça change.
Et pour rebondir là sur ce que tu disais, donc, des fois, les émotions, effectivement, nous, on n'y arrive pas en tant qu'adultes, et c'est normal, et c'est OK. Et du coup, c'est aussi, tu disais, comprendre que notre enfant, peut-être, n'y arrivera pas. Et j'aimerais rebondir aussi sur quelque chose. Des fois, on vient me voir, on me sollicite pour me dire, mais je comprends pas, mon enfant, par exemple, à 10 ans. Et il part encore dans des tempêtes émotionnelles. Je pensais que ça passerait après 5 ans ou 7 ans, là, puisqu'on a vu que le cerveau, normalement, commence un petit peu à pouvoir réguler tout ça. Donc déjà, il faut savoir que ça se fait sur plusieurs années, hein. C'est pas bim, à 7 ans ou à 10 ans, le cerveau, il est OK.
Attends, je pensais qu'on offrait un cortex préfrontal à 6 ans, tu vois.
Voilà. Donc,
tout près, quoi. Ah non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça, mais c'est surtout que on a le droit, et on y est tous, même adultes, parfois dans des émotions qui nous dépassent, qui font qu'on s'emporte, alors que peut-être, oui, c'est disproportionné, mais parfois ça arrive même adultes. Donc pourquoi attendre d'un enfant que passé 7 ou 8 ans, ça ne lui arrive plus à lui ? C'est pas logique, donc oui, ça peut arriver. À tous âges, c'est juste que peut-être que ça arrivera moins souvent, parce qu'effectivement, plus l'enfant grandit, plus le cerveau devient mature. Mais ça ne veut pas dire que, on est lisse au niveau des émotions et hop, je suis en colère, mais je gère justement. Parce
non,
que là, on pourrait attendre de la gestion quand on a ces questionnements-là, c'est qu'on attend de la gestion. Mais au final, on n'est pas dans la gestion des émotions, on est dans le fait de les vivre vraiment pleinement. Donc, parfois, il y a des choses qui se passent, même malgré eux, en fait.
Non, mais totalement. Et c'est super intéressant. Après, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire... Tu vois, dans la construction, s'il y a un truc que je veux préciser, c'est qu'on pourra avoir tendance à penser qu'on veut créer des espèces d'humains parfaits qui sont tout lisses et qui maîtrisent tout. C'est pas le sujet. Par contre, il y a une vérité scientifique qui est que l'accompagnement, les émotions accueillies et accompagnées, ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus après, ça veut dire que ça va être géré, lissé, tout ce qu'on veut. Ça veut juste dire qu'en fait, on va construire des chemins neuronaux qui vont permettre des réponses plus efficaces. Plus elles vont se renforcer, plus les réponses seront efficaces dans l'avenir. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va effacer les émotions, qu'on va les bloquer, ça veut juste dire qu'on va donner des outils à notre enfant pour permettre d'assimiler, de comprendre ce qui se passe plus tard. Mais en effet, ça ne veut pas dire que ça va disparaître, et ça serait triste, pour le coup, que ça disparaisse.
Des fois, il y a des personnes aussi qui me disent « Oui, mais toi, comme tu fais du yoga et tout, t'es tout le temps zen, ou genre, c'est hyper facile, tu vois, avec tes enfants. » Mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas vu les émotionnels de mes filles. C'est juste qu'en fait, on va être dans l'acceptation. C'est juste la façon d'accepter et d'accueillir l'émotion qui va peut-être être différente. Mais ouais, ça veut pas dire que tout est calme et que tout est zen. Ça veut juste dire que tout est ok, en fait. Voilà, c'est ça la différence.
Mais c'est ça, tout est ok, tout est ok. Peu importe ce qui arrive, c'est ok. Et ça, c'est super important. Parce qu'on a déjà beaucoup parlé,
oui.
Avant de clôturer cet épisode, je voudrais peut-être qu'on donne peut-être aussi des outils très concrets sur les émotions. Moi, personnellement, nous à la maison, qu'on a commencé à aborder le sujet. Alors moi, j'utilise beaucoup le travail de Virginie Maillard de Bougré-Bouillon avec les cartes des émotions, la roue des émotions, les échelles des émotions. Un, parce que je suis un peu un fanboy de son travail, faut bien l'avouer. Et deux, parce que c'est super chouette. Et au tout début, si tu veux, nous, on avait associé les cartes des émotions de Virginie aux signes qu'on pouvait trouver fatalement dans le travail notamment de Little Ben Bao. Et en fait, ça nous avait vraiment permis, tu vois, assez tôt, quand on montrait une carte et qu'elle nous demandait ce que c'était, en fait, on posait les cartes et quand nous on disait ce que c'était, on expliquait avec le signe et ensuite on disait ce que nous ça faisait et ça nous permettait ensuite d'interroger ce que elle faisait. Et on avait toujours les cartes un peu, tu vois, un peu sous la main. Et ce qui était très très fou en fait, parce que tu te rends compte du potentiel incroyable des enfants. C'est que même, si tu veux, à 12-14 mois, alors qu'elle parlait pas, mais qu'elle commençait un peu à signer, elle était capable d'aller nous chercher, de prendre la boîte de cartes, de nous montrer une émotion, et pas pour toutes, hein, mais de la signer. Et pour le coup, là, on pouvait commencer, même si elle ne verbalise pas et nous comprend quand même bien à cet âge-là, on pouvait commencer à dire, alors, ok, comment tu te sens? Alors là, tu dis que t'es triste, et comment tu te sens, machin, pour l'aider à faire ce chemin de connexion entre le corps et l'émotion. Et toi, quels sont tes... Bon, là, j'ai beaucoup parlé de nos outils de base. Et toi, quelles sont tes astuces comme ça, pour accompagner les parents à accompagner les émotions?
Alors moi, ça passe déjà beaucoup par le yoga. différents exercices, différentes postures, différentes respirations, justement. Et d'ailleurs, j'avais fait un post où j'avais fait des vidéos avec un outil de yoga par émotion, parce qu'après c'était compliqué d'en mettre plus là sur Instagram, mais en fonction de si c'est de la joie ou si c'était de la colère ou de la tristesse ou de la peur, je crois que j'avais fait les quatre émotions principales. Mais après, donc effectivement, nous aussi on utilise donc des supports livres, les roues, comme tu disais, des émotions. Après, nous, ce qu'on a aussi, ce sont des petites figurines faites à la main, qui avec des visages, en fait, qui représentent les différentes émotions. Donc, on peut jouer aussi avec ça, où l'enfant peut aller chercher, pareil, la figurine pour nous la montrer. Après, nous, ce qu'on a à la maison aussi, donc, c'est Pipouette. je ne sais pas si tu connais. Donc en fait, ouais, c'est une petite peluche où dessus, on scratch le visage associé à l'émotion. Donc là, c'est pareil, en fait, pour les enfants, on va dire, qui ne savent pas trop parler ou qui savent parler, mais qui, pris en fait par une émotion un peu trop forte, vont pas forcément arriver à le dire verbalement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, tu as la possibilité avec les signes, qui est un outil juste génial. Et ben là, par exemple, Pipouette, c'est « Est-ce que tu veux me montrer sur Pipouette comment est-ce que tu te sens ?» Ou des fois, on peut juste dire « Comment est-ce qu'elle se sent, la Pipouette ?» Voilà, mmh, de transposer sur une peluche ou un outil extérieur, ça aide aussi. Après, ce qu'on a également, c'est... Je crois que ça s'appelle un aval souci, hein, quelque chose comme ça, donc de chez Optoys. Donc pareil, c'est une peluche. Donc nous, on l'utilise pour la peur. Donc elle a une fermeture éclair à la place de la bouche. Et ben, on peut y déposer à l'intérieur ce qu'on ressent ou ce qui nous fait peur ou autre, et puis le refermer. Bon, après, nous, on utilise aussi des pierres naturelles. Donc par exemple, moi, les filles, elles ont toutes les deux un quartz rose. Et on peut imaginer que, voilà, là, tu te sens pas très bien, ok, tu sens que l'émotion, elle est vers où? Est-ce que c'est vers ton ventre? Est-ce que c'est vers ton cœur ou vers ta poitrine? On pose le quartz à l'endroit où l'enfant ressent les choses dans son corps. Et puis, on respire en imaginant qu'en fait, on confie au quartz rose, donc à la pierre, tout ce qui est un petit peu difficile ou pas forcément très agréable. Et la pierre prend les peurs, par exemple, et puis ensuite on va pouvoir aller la rincer sous l'eau, la laisser se reposer jusqu'à demain. Mais ça va être, ouais, des choses pour dire d'extérioriser aussi un petit peu ces émotions, pour dire de pouvoir s'apaiser après derrière, et après pour dire d'échanger autour des émotions, pour donner aussi du vocabulaire ou autre aux enfants. Bah après, il y a plein de livres qui existent au jour d'aujourd'hui, voilà, énormément. Mais c'est vrai que le support de livres pour les enfants est quand même un super bon outil. Voilà. Et ça, ça marche quel que soit le sujet. D'ailleurs, les livres, c'est un
incroyable. Moi, je suis un grand fan. Je suis un grand fan de livres. Donc, donc voilà. Mais ouais, en effet, il y a plein de supports. Et c'est très chouette. J'aime beaucoup aussi le fait d'avoir précisé qu'il faut extérioriser. Hein, on ne l'a pas rappelé, mais le mot même émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur, donc c'est important que ça sorte. Donc quand on vous dit de garder vos émotions en vous, c'est surtout ne le faites pas. Et c'est important, les émotions, c'est important de se caler là-dessus, d'être au clair avec les siennes pour être au clair avec celles des autres. Parce que moi, j'ai coutume de dire dans mes ateliers sur l'écoute active et sur l'empathie, que justement l'empathie, c'est l'empathie qu'on recherche, en fait, l'empathie. Je vais pas dire la vraie, mais peut-être la plus poussée, c'est de réussir à proposer une émotion qui sera une réponse à l'émotion de l'autre. Et ça, justement, l'ensemble de ces cheminements que tu as évoqués, ça permet de le faire. Et ce que je trouverais très intéressant comme réflexion pour nos auditeurs, c'est de se dire, tiens, si je le fais pour mes enfants, est-ce que je peux pas le faire pour tout le monde ?
Je voudrais juste rajouter, voilà, que c'est important aussi de prendre soin de soi en tant que parent, parce que souvent on l'oublie, moi la première, et le problème c'est que si on prend pas ce temps pour prendre soin de soi, ce sera moins évident d'arriver à prendre soin de l'autre ou d'être dans l'accueil et dans l'écoute, parce que si on est capable de se donner de l'amour et du temps pour soi, on y arrivera, voilà, pour les autres. Mais c'est bien d'être des fois d'arriver à trouver du temps et prendre du temps pour soi. C'est pas forcément être loin de ses enfants et partir 5 jours, hein. Des fois ça peut être même s'ils sont à côté de nous, dans la pièce à côté, mais on va écouter quelque chose qui nous fait du bien, qui nous ressource. Parfois on a besoin effectivement de prendre du temps en dehors de la maison ou autre, ça encore c'est propre à chacun. Mais ouais, vraiment de pas s'oublier, voilà.
Ben écoute, je crois qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup, Nadège.
Merci à toi.
À bientôt.
Ouais, ciao.
Salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr.
À bientôt.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarcat Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.